Europe 1.
8h13, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est vice-président de l'Assemblée nationale et députée Rassemblement national du Nord.
Bienvenue ce matin sur Europe 1. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Pouvoir d'achat, emploi, retraite, immigration, sur tous ces sujets d'importance, Emmanuel Macron s'est voulu pédagogue et offensif hier, même si vous n'êtes pas d'accord sur le fond. Est-ce que vous y avez vu malgré tout un cap, un sens ?
J'ai vu un manager du déclin. Emmanuel Macron est le manager du déclin sur l'ensemble des sujets que vous venez d'évoquer. Emmanuel Macron est en échec. La sécurité, le pouvoir d'achat, l'inflation, la place de la France dans le monde, le chômage. Emmanuel Macron est en échec. Il est incapable de remettre de l'ordre dans notre pays. Ordre qu'il a lui-même, désordre qu'il a lui-même créé. Par conséquent, aujourd'hui, on a le sentiment d'un président qui voit une situation qui lui échappe. Alors, il feint d'être quelqu'un qui organise les choses, qui a un cap, etc. En réalité, il ne voit plus rien du tout. Il est totalement dépassé par la situation qu'il a lui-même créée.
Y a-t-il une prise de conscience, par exemple, sur l'immigration, sans faire de lien existentiel entre immigration et insécurité ? Emmanuel Macron reconnaît la surreprésentation de l'immigration, par exemple, dans la délinquance à Paris. Est-ce que c'est une lucidité que vous saluez ?
Totalement hallucinant. Le président de la République reconnaît qu'il y a effectivement une part excessivement importante de l'immigration dans l'insécurité à Paris, et à côté nous dit « mais je ne reconnais pas le lien entre immigration et insécurité ». Totalement schizophrène, ce président de la République n'a donc aucun cap, ou alors c'est la limite du « en même temps ». C'est-à-dire qu'en même temps, il considère qu'il y a beaucoup d'étrangers qui commettent des infractions, et en même temps, il considère que pourtant il n'y a pas de lien entre le fait d'être étranger et délinquant. Tout ça n'a aucun sens. Le président de la République n'y voit plus rien, n'y comprend plus rien, est totalement déconnecté du pays réel. Et je pense que malheureusement, ce sont les Français qui, au quotidien, payent le prix de cette déconnexion.
Pourtant, il maintient ses objectifs, et notamment le slogan, le but de 100% d'OQTF, ces fameuses obligations de quitter le territoire français exécutées. Alors là, je précise qu'il parle des OQTF avec délai. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience salutaire sur ce sujet ?
Oui, mais j'ai déjà entendu exactement ce discours-là en 2019. Je crois que c'était d'ailleurs dans le journal Valeurs Actuelles, exactement les mêmes mots, 100% d'OQTF. Et puis, l'année suivante, Gérald Darmanin a répété ça, et puis l'année suivante, Emmanuel Macron répète ça.
Parce que personne ne croit que ça se fait un claquement de doigts.
Mais ça va faire, nous entrons dans la sixième année du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais au bout de 6 ans, on serait en droit d'attendre des résultats, des choses qui bougent. Or, évidemment, quand on ne veut pas être exigeant vis-à-vis de l'Algérie, lorsqu'on ne veut pas faire un moratoire...
On ne veut pas ? Vous pensez que le président ne veut pas ou ne peut pas ? C'est difficile aussi d'imposer des choses à des pays qui ne veulent pas reprendre ces individus.
Je pense qu'il ne veut pas parce qu'il voit d'ailleurs de toute façon l'immigration comme un projet, comme l'Union Européenne. Pas de moratoire sur l'immigration.
Vous avez entendu qu'il avait dit qu'il y avait trop d'entrées.
Oui, non, mais d'accord, mais il se gargarise de mots, et le problème, c'est que les gestes qu'il fait, la politique qu'il mène, est à l'opposé des discours qu'il a, ces discours du perpétuel en même temps. Quand il nous dit qu'il veut répartir des migrants ou des immigrés dans les campagnes, je pense qu'il n'est plus dans la réalité. Je pense qu'il ne comprend pas que notre pays est un pays d'équilibre, que nous ne pouvons plus accueillir, tout le monde entre, personne ne sort, et que ceci non seulement pèse sur les finances publiques, mais aujourd'hui pèse sur la sécurité des Français. Les Français ont les yeux ouverts. Emmanuel Macron est un somnambule dans le pays.
Prenons un exemple concret, Sébastien Chenu, sur la sécurité. À Roanne, un père de famille s'est fait justice lui-même en passant à tabac avec ses amis et voisins. Le suspect, un mineur isolé guinéen qui aurait agressé sexuellement sa fillette de 6 ans. On a appris ce matin, il y a quelques instants, qu'il y aura une plainte contre ce père de famille. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous cautionnez la réaction de ce père de famille ?
Mais il y a une différence entre comprendre et cautionner.
C'est
parce
pour ça que je vous posais deux fois.
Je comprends que lorsque le droit est défaillant, lorsque la justice est vécue comme laxiste, comme lente, et lorsque votre fille se fait agresser, je comprends que votre première réaction, ce soit, d'ailleurs, bien souvent, chacun dit, voilà, si ça m'arrivait, j'irais casser la figure de celui qui a violé, volé, etc. Mais maintenant, la réponse ne peut pas être la loi du talion dans une société
Donc ce père de famille a eu tort, ou est-ce que vous...
Bien sûr, mais parce que la justice, il a le sentiment, et plus qu'un sentiment probablement, la raison que la justice ne le protégera pas, que la justice ne l'aidera pas, que la justice ne l'accompagnera pas. c'est une problématique centrale dans notre pays. Quand vous perdez confiance dans la justice de votre pays, eh bien, ce sont des situations qui sont similaires à celles du Talion. Elles sont pas acceptables. On peut pas se résoudre à cela dans un grand pays démocratique comme la France. Mais ça veut dire que force doit rester à la loi. C'est un de nos principes. Eh bien, force ne reste plus à la loi. Je pense que c'est très inquiétant pour la suite.
C'est-à-dire
je pense
qu'il peut y avoir de
la multiplication effectivement de ce genre d'actes de vengeance peut faire basculer notre société. Évidemment,
c'est-à-dire basculer. Vous pensez qu'une étincelle peut partir de ce
genre de société. Évidemment, et je pense que le gouvernement devrait y être beaucoup plus attentif plutôt que de faire culpabiliser sans arrêt les Français, plutôt que de détourner le regard, d'être dans l'esquive permanente. On ne commente pas, on ne récupère pas, on instrumentalise
pas. C'est bien pour ça qu'il y a une séparation des pouvoirs dans notre pays.
C'est pour ça que beaucoup ne commentent pas. Oui, d'accord. Mais je pense qu'il y a une différence entre ne pas vouloir être dans le commentaire et agir. Ce gouvernement n'est pas dans l'action. Il est totalement dans une sorte de
Pour cet exemple, c'est-à-dire Sébastien Chenu, vous diriez que cette fillette n'aurait pas été agressée sexuellement si ce mineur isolé ne serait pas rentré en France.
Mais donc il y a des choses factuelles. Un étranger en situation irrégulière sur notre pays qui commet un délit, s'il n'était pas par définition sur notre sol, il ne commettrait pas ce délit sur notre sol. Ça, c'est factuel.
Et donc ça veut dire que vous pointez la responsabilité sur qui ?
Mais ça veut dire que notre politique migratoire qui nous amène à accueillir tant de gens venus du bout du monde, avec un certain nombre d'entre eux, pas tous, etc., qui se comportent mal, au-delà de poser des problèmes économiques dont on a parlé, sur les mineurs non accompagnés, c'est 2 milliards par an le coût que cela représente sur les départements, eh bien, au-delà même du coût économique, aujourd'hui, il y a un coût sécuritaire que le président de la République n'arrive pas à appréhender.
Alors l'économie, justement, hier, le président affirmait que la France avait mieux maîtrisé l'inflation que ses voisins européens. Quand on voit les chiffres, c'est factuel.
Oui, non, mais d'accord, mais
Vous passez un peu vite.
Non.
Vous êtes d'accord
mais ce que je veux dire, c'est que la
France 6% et la zone euro 10%.
Oui, mais le fait de relativiser sans arrêt n'est pas une réponse. Je veux bien qu'on ait des chiffres, mais si vous voulez, quand j'entends les chiffres, par exemple, du chômage, le président de la République nous dit il y a plus que 2 millions de chômeurs, il y en a 6,5, parce qu'il ne considère pas les catégories ABC.
Vous avez bien compris qu'il parlait d'une évolution, d'une tendance.
Mais je veux bien qu'on parle de l'inflation, mais la façon dont l'inflation touche les Français les plus modestes, les Français qui ont du mal à serrer les fins de mois, n'est pas la même chose qu'une inflation qui touche les Français les plus riches. Donc, si vous voulez, évidemment, c'est pas la même chose de supporter l'inflation quand vous devez prendre votre voiture tous les matins pour aller travailler que lorsque vous avez la possibilité dans une grande ville. Mais ça veut dire que le chiffre et les moyennes ne veulent rien dire en ce sens. Quand vous êtes dans une grande ville et que vous prenez les transports en commun, eh bien le poids du coût de vos transports est moins important et donc l'inflation, vous la subissez moins. Donc ça veut dire qu'il faut des politiques qui soient pérennes, qui soient concrète, et le président de la République est dans une espèce de rafistolage permanent.
Sans surprise, en tous les cas, il ne veut pas d'une indexation des salaires sur l'inflation, car cela entraînerait des énormes destructions d'emplois, dit-il. Bon, c'est dur à entendre, mais est-ce que c'est faux ?
Non, mais sur l'indexation...
Est-ce que c'est faux ?
Non, sur l'indexation sur de l'inflation, des salaires sur l'inflation, je pense que c'est une vieille méthode qui n'est plus du tout prônée par personne, qui est une revendication qui n'est pas celle-ci. Mais le problème des salaires dans notre pays est un problème qui est devant nous. Nous n'y échapperons pas. Le coût des salaires en France est trop bas, raison pour laquelle Marine Le Pen a proposé non seulement une conférence sur les salaires, mettre tout le monde autour de la table. Emmanuel Macron pouvait le faire depuis
encore,
très longtemps.
Avec
une proposition et un objectif. Objectif, augmentation des salaires pour tout le monde jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%, et en échange, gel des cotisations patronales.
C'est le Père Noël à toutes les saisons avec vous.
Non, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'entreprises ont conscience que la question salariale est devant nous, et que sous la pression de la société, ils ne pourront pas y échapper. Ils veulent cependant trouver des solutions, et trouver ces solutions, c'est la solution que nous proposons, gagnant-gagnant, augmentation des salaires, de tous les salaires, jusqu'à 3 fois le SMIC, de 10%, et gel des cotisations patronales en échange. Il faut aller vers cet objectif.
Alors, autre solution, en tous les cas, le président la voit ainsi, notamment pour combler les comptes publics, c'est la réforme des retraites qui entrera donc en vigueur d'ici à l'été 2023. Il l'a confirmé hier, malgré les oppositions, malgré les syndicats, il ne recule pas. De quoi est-ce le révélateur ?
D'une obsession, mais également d'une soumission. Une obsession parce que Emmanuel Macron est une sorte de comptable permanent et qu'il regarde les choses à travers un prisme uniquement financier.
Vu l'état de nos comptes publics, parfois il faudrait peut-être l'être un peu plus,
mais,
non vous ne le croyez
oui,
pas
mais quand c'est ça, pas un sujet oui, mais pour par vous exemple, vous savez, sur l'inflation, finalement, les Français la payent avec leurs impôts. Donc Emmanuel Macron, quand ce sont les autres qui la payent, c'est pas très grave. Mais là, c'est une soumission parce que c'est l'Union européenne qui le pousse à ça. C'est l'Union européenne qui lui demande de réformer notre système des retraites. Il oublie une chose, c'est que c'est un choix de société.
Que les autres pays européens et voisins ont effectué.
Pas tous, mais je peux vous citer
la liste de ceux qui l'ont fait.
Oui, d'accord, mais simplement, moi, je vois deux choses. Le comité d'orientation des retraites nous dit que notre système est redevenu excédentaire, mais surtout, le Trésor nous dit quelque chose d'intéressant. Puisque beaucoup de Français partent en retraite en étant malheureusement au chômage ou en étant malade, etc., eh bien, augmenter l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est augmenter les dépenses sociales, les dépenses d'assurance chômage, et ça, Emmanuel Macron ne veut pas le voir, ne veut pas le dire, parce qu'il est obsédé par une vision comptable. Moi, je crois qu'en réalité, son projet est un projet qui nous mènera à la ruine.
Il ne veut pas voir, dites-vous, ce qu'il a vu, Emmanuel Macron, en tout cas ce qu'il a dénoncé hier, c'est une alliance extrême entre vous, le RN et la NUPES sur la motion de censure, main dans la main, même combat. D'ailleurs, il était très remonté à ce sujet hier. Bon, c'est factuellement vrai, main dans la main, vous avez signé cette motion de censure.
Bon, les comédies d'Emmanuel Macron, il est totalement
vous
habitué.
Vous avez vu un moment de comédie?
Oui, bon, c'est toujours la comédie Adèle Arthé, totalement insincère. Moi, il y a plusieurs choses que je conteste. D'abord, alliance des extrêmes. Je ne sais pas en quoi nous sommes extrêmes. Je conteste, et je le contesterai toujours, ce qualificatif qui permet d'éviter bien des débats. Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, il y a de grandes lois qui, tout au long de notre histoire parlementaire, sont passées en voyant la gauche et la droite parfois voter de la même façon. Des grandes lois sur l'IVG, par exemple, rappelons-nous, proposé par la droite, voter aussi avec la gauche. Donc, trouver des majorités de circonstances, ce n'est pas nouveau.
Vous allez continuer à le faire, parce que ce matin, Sébastien Chenu, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, annonce une nouvelle motion de censure à l'encontre du gouvernement et d'Elisabeth Borne. Est-ce que là encore, vous allez vous allier
Mais je crois que notre marqueur, c'est que dans l'intérêt national, nous sommes des gens libres. Notre seule boussole, c'est l'intérêt du pays. Si il faut censurer le gouvernement qui le mérite, nous le censurons et nous utilisons un moyen tout à fait constitutionnel, démocratique, qui est à notre portée, qui est la motion de censure.
Donc vous pourriez signer cette autre motion.
Nous déposons nous-mêmes une motion de censure et nous la votons. La gauche ne veut pas la voter, c'est quand même problématique de son côté. La gauche dépose des motions de censure, nous la votons parce que nous souhaitons la faire aboutir. Si la gauche considère qu'elle dépose des motions de censure uniquement pour elle, elle sait très bien qu'elle n'aboutira jamais, donc c'est du flan. Nous souhaitons censurer le gouvernement, nous utilisons les moyens démocratiques et constitutionnels qu'ils permettent, et nous sommes libres et non pas soumis, contrairement aux Républicains.
Bien, malgré tout, vous avez voté cette motion de censure. Mais expliquez-nous, Sébastien Chenu, vous dénoncez Jean-Luc Mélenchon sur ses propos sur la police, sur le désordre qu'il incarnerait, sur sa proximité avec l'islam politique, sur l'antisémitisme, mais ça ne vous a quand même pas dérangé de voter sa motion de censure.
Non, mais il n'y avait rien de tout ça dans le texte de la motion de censure.
Je sais bien, mais au final, dans la tête d'un électeur.
Non, mais il n'y avait rien du tout ça. Mais on ne nous demande pas d'adhérer au programme de Jean-Luc Mélenchon. Quand un député insoumis vote notre motion de censure, un député insoumis de Martinique, il adhère pas à notre programme. Il censure le gouvernement. Il utilise les moyens que la Constitution nous donne. Donc, il n'y avait rien. D'ailleurs, la gauche a édulcoré, visiblement, son texte pour pouvoir attirer à elle des voix, peut-être.
En fait, chacun s'allie au gré des circonstances. D'ailleurs,
mais c'est la vie parlementaire.
Mais comment vous êtes d'ailleurs arrivé vice-président à l'Assemblée grâce aux voix de qui?
Parce que
la majorité, elle est.
Bien sûr, mais parce que l'Assemblée nationale, son organisation doit être représentative des grands courants politiques qui existent en son sein. Donc c'est pour ça. Simplement, cette motion de censure, le gouvernement la méritait. On a travaillé. Les députés du Rassemblement national ont fait passer des amendements, notamment des crédits d'impôt pour les EHPAD, des crédits d'impôt pour la garde d'enfants. Madame Borne met tout ça à la poubelle. Voilà ce qui a été déterminant dans le fait que nous votions et déposions nous-mêmes.
On va conclure, Sébastien Chenu. L'état de la France est un tableau sur un fond noir, comme un soulage, on pourrait dire, ce matin. Comment redonner un peu d'espérance? Est-ce que ce n'est pas aussi la part manquante de votre discours au RN?
Non, vous parlez de Pierre Soulage. Moi, j'adorais Pierre Soulage. Et dans les tableaux de Pierre Soulage, ils sont noirs, mais ils sont pleins d'espoir. Peut-être
il
que
est où,
ça correspond dans le peuple français. Le peuple français est plein de ressources. La France a un mot à dire à l'international. Les Français n'ont pas envie, je le crois profondément, de subir. Ils ont envie d'être acteurs de leur destin. Emmanuel Macron les fait se soumettre. Je crois que nous méritons mieux. Vous savez, je crois que c'était Clémenceau qui disait ça. C'est un peuple de lions gouverné par, je crois, des chèvres. Peut-être je me trompe, mais c'est à peu près ce que je pense en tous les cas.
Merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.